même. Il fallait faire ça parce que à cause de la pandémie, il y a des millions de gens qui ne peuvent pas payer leur loyer et qui ont des problèmes à mettre de quoi manger sur la table. Il fallait un grand effort pour aider ces gens-là. Il y a 10 millions en chômage maintenant. Les républicains disent qu'ils ont peur d'un grand déficit, mais je crois que la plupart comprennent que leur vote négatif était plutôt pour montrer à leurs membres qu'il y a toujours une opposition. S'ils votaient avec le président, il n'y aura plus d'opposition. C'était un geste politique et pas plus que ça.
Et Marilyn, en plus des paiements directs, hein, il y a aussi des crédits d'impôt pour les enfants. Pensez-vous que cela va contribuer à lutter contre la pauvreté ou, comme le disent les républicains, c'est juste un programme progressiste qui vient alourdir la dette publique?
Alors là non, c'est un programme qui est extrêmement nécessaire, surtout en ces temps de pandémie. Il s'agit de lutter en fait non seulement contre la pauvreté et contre la précarité en général. Et comme vous le voyez, le programme inclut un programme de nutrition pour les enfants, en particulier des fruits, des légumes qui seront accessibles aux familles. Et je pense que là, c'est un programme qui vraiment va changer la donne. Et s'il devient permanent, parce que c'est aussi le souhait de beaucoup de démocrates, c'est que cela devienne un programme permanent, ce sera un programme qui se rapprochera, si vous voulez, du New Deal. Donc ce sera une nouvelle façon de lutter contre la précarité aux États-Unis, contre la pauvreté.
Oui, mais en fait, certains estiment que seuls 30% de ceux qui reçoivent ces chèques prévoient de les dépenser directement et que beaucoup vont peut-être investir l'argent en bourse ou en tout cas payer des dettes et que certains n'ont pas forcément besoin. Qu'est-ce que vous dites à cela?
Alors pas du tout, parce que ce programme vise surtout les classes les plus défavorisées. Et même s'ils utilisent cet argent pour payer une dette quelconque, ce serait un investissement tout à fait normal. Parce qu'il ne faut pas oublier que très souvent, on questionne l'utilisation de certains programmes quand il s'agit des classes défavorisées. Mais quand il s'agit de sauver les banques, on ne questionne pas du tout la façon dont les banques vont utiliser cet argent. Donc je pense que l'heure n'est pas venue au questionnement. Nous sommes dans une période de pandémie, dans une période extrêmement difficile où beaucoup de gens se trouvent en situation de précarité. Et donc le stimulus est une très bonne chose.
D'accord. Alors Claude, le plan est très populaire hein, d'après les sondages, mais le président Biden et son vice-président ont éprouvé quand même le besoin de le vendre, entre guillemets, auprès de l'opinion publique avec cette tournée. Pourquoi sentir ce besoin d'aller vers le public américain et d'expliquer ce programme?
Oui, effectivement, c'est surprenant parce que, comme le disaient Marlise et Herman, le programme en lui-même est extrêmement populaire chez les démocrates comme chez les républicains. On a même vu un parlementaire républicain qui avait voté contre le plan reconnaître qu'effectivement, ça aurait un effet bénéfique pour ses électeurs. Mais il y a toujours une certaine réserve, effectivement, et on voit les critiques des républicains s'accentuer, soulignant justement que finalement, il y a sur ces quelques 2 000 milliards de dollars, il n'y a que 30% qui sont véritablement consacrés au Covid. Et alors ils se plaignaient. C'est effectivement, il y a dans le plan certains bénéficiaires qui ne devraient peut-être pas forcément y figurer. Quand on donne de l'argent pour, par exemple, les arts ou des choses comme ça, les républicains renaclent un peu. Donc, c'est pour...
Mais ça, c'est une tradition qu'on a vue aussi. C'est pas nouveau.
Oui, bien sûr.
Je dis, le fait d'inclure des dépenses qui n'ont rien à voir avec, disons, ce plan de la pandémie, c'est un peu une tradition aussi, non?
Tout à fait, c'est ce que l'on appelle le pork. Le pork, le porc, c'est le gras que l'on donne pour... Quand on veut faire passer une loi pour satisfaire tout le monde, il faut donner aux uns et aux autres ce qui va les aider à être réélus lors de l'élection suivante.
Oui, alors Herman Cohen, le président Biden avait, pendant la campagne, promis de travailler avec les républicains. Et pourquoi cette fois-ci, en tout cas, il n'a pas pu convaincre l'opposition républicaine de soutenir son plan et qui, l'opinion, à votre avis, qui l'opinion pourrait blâmer si la division persiste à Washington et au Congrès?
Oh, je crois que les républicains sont pas très intelligents. Il y a un grand besoin, il y a beaucoup de gens au chômage, donc ce programme va aider des centaines de millions d'Américains. Donc je comprends pas pourquoi les républicains vont pas avec lui. Peut-être ils croient qu'il y aura des grands problèmes après, que ça va pas réussir. Donc, les républicains voudraient rester à part, mais comme Claude dit, je ne comprends pas. Ils sont un peu stupides, à mon avis.
Est-ce que le président Biden n'avait pas... en fait, est-ce qu'il s'attendait à cette opposition, puisque peut-être dans son passé de sénateur, il a eu à travailler avec les républicains? Est-ce qu'il a compris peut-être que la donne a changé aujourd'hui, comme le disent certains en tout cas?
Il a essayé, j'ai vu à la télé, il a invité des dirigeants républicains, ils étaient dans le bureau ovale. Il a voulu vraiment avoir les républicains avec lui, mais malheureusement, ils ont refusé. Mais je crois que ça ne va pas faire de tort à Biden, au contraire.
Alors Marilyn, le sénateur Bernie Sanders, après l'adoption du plan, a indiqué que c'était l'une des lois les plus progressistes jamais votées aux États-Unis. Êtes-vous d'accord d'abord, et pensez-vous que la prochaine bataille sera celle sur la hausse du salaire minimum à $15 l'heure?
Oui, alors on parle de salaire minimum, mais aussi on parle de revenus garantis. Ce sont des conversations qui ont lieu. Je pense que c'est une loi extrêmement, ce qui vient d'être voté est extrêmement progressiste. Depuis le New Deal, on n'avait jamais vu un tel, comment on dirait en anglais, package. Et je pense que c'est vraiment très salutaire en ce moment. Cela vient vraiment à un moment où les Américains en ont extrêmement besoin. Donc je pense qu'il n'y a pas du tout, même les républicains dans leur fort intérieur, comme on dit, ils doivent se réjouir de quelque part du fait qu'un tel programme ait été voté, parce que c'est un programme qui va vraiment permettre aux Américains d'éviter le pire. Et on voyait déjà sous la précédente administration que le pire n'avait pas été évité, puisque certains, sous le précédent président, avaient obtenu, ceux qui avaient obtenu des soutiens, c'était surtout des compagnies, des entreprises qui étaient déjà prospères en fait. Donc ce nouveau package devrait plaire en principe à tout le monde.
Alors, Claude, c'est vrai.
On pose la question du revenu minimum.
Oui, absolument.
C'est une question d'aller au-delà même du revenu minimum et d'accorder ce que l'un des candidats à la présidence, le candidat Young, si vous souvenez, il avait proposé.
Andrew Young.
Oui, il avait proposé un salaire universel, si vous voulez. Et ce salaire universel devait être versé, en principe, à tout un chacun pour garantir ce qu'il appelle la dignité humaine, ce qui est extrêmement important. Préserver la dignité humaine, que tout un chacun puisse avoir accès à un toit, à l'assistance médicale, à la couverture médicale gratuite, à l'éducation, tout ça fait partie de la dignité humaine.
Oui, Andrew Young qui avait proposé un chèque de $1,000 à chaque Américain pendant la campagne entre démocrates. Mais Claude, c'est vrai que on n'a pas encore entendu beaucoup le bon socialisme agité comme ça l'a été pendant la campagne. Mais pensez-vous que les Républicains vont être tentés de le faire en vue des élections de mi-mandat, bien que la majorité des électeurs, même républicains, approuvent les paiements directs?
Je suppose qu'ils vont essayer, hein, mais le gros problème pour Biden, c'est de maintenir l'équilibre entre les centristes et les progressistes. Jusqu'à présent, les progressistes se sont relativement alignés sur le président et ils essaient de ne pas faire trop de vagues, mais je pense que les pressions avec le temps vont s'accentuer et ça va être le problème de Joe Biden.
Le mot socialisme continue-t-il de faire peur comme avant, Herman Cohen?
Socialiste, il y a un parti qui s'appelle American Socialist, ils sont pas très populaires. Quand on dit socialiste, on pense aussi communisme. Ça va prendre du temps avant que le socialisme devient normal aux États-Unis. Donc on dit progressiste.
Plus accepté, plus acceptable. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je m'en vais lire quelques commentaires de téléspectateurs sur la page VOA Afrique de Facebook. On a Fructuanda, il est à Boïcon au Bénin. Il nous dit « Moi, je ne vois aucune relance économique, mais plutôt une large dette qui fera plonger le monde dans une nouvelle crise économique. » Alphonse Mbouaki à Kinshasa, en République démocratique du Congo, nous dit « Ce plan de 1900 milliards d'aides aux entreprises, familles et chômeurs en difficulté à cause de la pandémie est un succès pour Joe Biden. Cependant, les Républicains ont raison d'affirmer que le programme d'immigration de Joe Biden a favorisé la ruée des migrants vers la frontière avec le Mexique. Voilà, nous allons d'ailleurs parler de cette question dans la seconde partie de Washington Forum. Merci de rester fidèles. On revient après une courte pause. De Washington Forum. Les groupes humanitaires affirment que le nombre de migrants à la frontière américano-mexicaine a augmenté progressivement depuis que l'administration Biden a pris fonction. Ils arrivent dans l'espoir de demander l'asile ou le statut de réfugié afin de pouvoir vivre ici aux États-Unis. Laura Sepulveda s'est rendue sur place. Le récit est de Dilidico.
Nous sommes à San Isidro, dans l'état de Californie. De l'autre côté de ce port d'entrée, entre la frontière mexicaine et celle des États-Unis, se trouve El Chaparral, un quartier de Tijuana. L'endroit est devenu le foyer de plus de 300 hommes, femmes et enfants migrants venus de différentes régions d'Amérique centrale et d'Haïti. Ils vivent sans accès à l'eau potable et survivent grâce à la nourriture fournie par des ONG, des organisations internationales et des associations caritatives. Leur espoir est de pouvoir entrer sur le sol américain. Beaucoup d'entre eux ont un message pour le nouveau président Joe Biden.
Je voudrais lui demander de nous aider à nous rendre aux États-Unis car je souhaite aller à l'école.
Luis a 11 ans. Il est originaire du Honduras. Cela fait un an qu'il n'est pas allé à l'école, en partie à cause de la pandémie, mais aussi parce qu'avec sa mère, il attend à la frontière. Il demande à l'administration Biden d'ouvrir les frontières et de donner aux familles de migrants une opportunité de pouvoir demander l'asile ou le statut de réfugié. Les responsables américains ont récemment commencé à autoriser un nombre limité de migrants à entrer aux États-Unis pour déposer une demande d'asile, un net changement par rapport à la politique menée par l'ancienne administration Trump qui les obligeait à attendre au Mexique les dates fixées par les services d'immigration américains. Cette politique entrait dans le cadre du protocole de protection des migrants, MPP. Mais l'administration Biden fait évoluer les choses petit à petit, car elle n'a par exemple pas annulé d'autres décrets de l'administration Trump qui autorisent les expulsions forcées de certaines personnes entrées illégalement aux États-Unis ou ayant contourné les points de contrôle de santé. Une autre famille, Maria Luisa et ses enfants, n'ont pas de dossier en instance auprès du MPP, mais elle espère tout de même avoir une chance de présenter sa demande d'asile.
Le président a dit que seules les personnes ayant un dossier auprès du MPP pourront entrer aux États-Unis, mais nous attendons de voir si nous aurons la chance de passer la frontière comme eux.
La Maison-Blanche et le département de la sécurité intérieure exhortent les migrants en attente au Mexique à vérifier s'ils ont ou non un dossier en instance. Mais la plupart des familles n'ont pas accès à ces informations et sont bloquées à la frontière en pleine pandémie.
Voilà, heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Je rappelle nos invités tous à Washington. Il s'agit de Herman Cohen, ancien secrétaire adjoint aux affaires africaines, Marilyn Seafolk, professeur à Howard University, et Claude Postella, journaliste, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique. Alors, Herman Cohen, l'autre grand dossier de l'administration Biden depuis qu'il a pris fonction, c'est l'immigration, n'est-ce pas? Il a déjà signé des décrets qui reviennent un peu sur la politique de son prédécesseur. Toutefois, l'opposition républicaine estime que c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont une nouvelle crise à la frontière mexicaine avec des milliers d'enfants non accompagnés. Comment Biden peut-il gérer cette crise?
C'est un grand problème pour lui parce que il ne peut pas laisser entrer tout le monde sans contrôle. Et je crois qu'il risque de répéter la politique de Trump. J'ai vu tout à l'heure le président dire à la télévision, il ne faut pas venir, restez chez vous, dans votre pays, dans votre ville, dans votre communauté. Donc il commence à décourager l'arrivée. Mais le grand problème pour lui maintenant, ce sont des enfants non accompagnés. Qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Vous ne pouvez pas dire, bon, retournez chez vous. Comment ils vont faire? Donc, ils commencent à s'organiser pour accueillir les enfants, pour les mettre avec les familles, etc. Tandis que Trump a dit aux enfants, ils ont mis les enfants dans les cages, n'est-ce pas, comme des animaux. Donc, c'est un grand problème pour lui, mais je crois qu'il va arriver à trouver une solution humanitaire. C'est ça qui compte, n'est-ce pas? Et ses enfants vont aller dans les familles, mais surtout, il faut les décourager de continuer à venir. Ça ne peut pas durer.
Marilyn Seafolk, entre la volonté de Joe Biden de gérer les questions d'immigration avec humanisme comme il l'avait promis et la nécessité de faire respecter les lois, comment l'administration Biden peut-elle s'y prendre?
Alors, on est tout d'abord dans une situation de pandémie. Donc, faire rentrer davantage d'immigrants dans le pays le plus touché par la pandémie, c'est aussi un risque pour les migrants eux-mêmes. Que Joe Biden dise aux populations qui veulent rentrer aux États-Unis qu'il vaut mieux rester chez soi, cela relève aussi d'un aspect sanitaire, parce qu'ils viennent peut-être de pays où la pandémie n'a pas fait autant de ravages. Donc il faut déjà penser surtout à cela. Le fait que les enfants soient accueillis et qu'ils soient accueillis dans de meilleures conditions que sous l'administration précédente, c'est déjà, cela augure vraiment déjà de jours meilleurs pour ces enfants. C'est un point déjà positif pour l'administration Biden.
Et Claude, le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a dit, je crois que c'était mardi, à l'endroit de ces migrants, que ce n'était pas le moment de se rendre à la frontière, comme d'ailleurs l'a répété aussi le président Biden. Pensez-vous que l'immigration, surtout la question de traverser la frontière sud, pourrait être un peu une patate chaude hein, pour les démocrates?
Ah oui, c'est plus qu'une patate chaude, hein, c'est une courge. Non, ça va être un des gros problèmes auxquels va devoir faire face Biden, celui de l'immigration. Ceci dit, c'est pas un problème nouveau. Il existe, ça fait à peu près une vingtaine d'années que l'on voit ces réfugiés de plus en plus grand nombre essayer de franchir la frontière. Obama a eu lui aussi le même problème en 2014. Donc c'est un problème extrêmement délicat et évidemment ça apporte du grain au moulin des républicains qui vont utiliser cet argument. Biden ouvre les frontières, n'importe qui peut venir pour les élections législatives de l'an prochain et même si le problème se poursuit jusqu'en 2024, jusqu'au présidentiel. C'est un problème extrêmement délicat. Ce qui me surprend un peu, c'est que l'administration Biden n'ait pas prévu cet afflux de migrants. Il était évident qu'à partir du moment où l'on levait les restrictions imposées par l'administration Trump, il y aurait de nouveau une immigration massive.
D'accord. Alors, Herman Cohen, il y a également la question des Dreamers, hein, ces enfants qui avaient un statut temporaire sous l'administration Obama. Donc aujourd'hui, pensez-vous qu'une solution définitive sur leur citoyenneté pourrait être trouvée, même si les démocrates disposent d'une très courte majorité au Congrès?
Oh, je crois que Biden va trouver une solution. Ces gens-là sont arrivés quand ils étaient des très petits-enfants avec leurs parents. Ils ont grandi aux États-Unis, ils sont éduqués aux États-Unis. Maintenant, ils sont des médecins, ils sont des infirmiers, ils sont des avocats, etc. Ils sont des juges. Mais ils sont toujours dans un état d'illégalité. Il faut faire quelque chose. Et je crois que même les républicains acceptent qu'il faut légaliser tous ces gens-là. Donc, je crois que Biden va le faire pendant son premier mandat.
Et vous, Marilyn, vous êtes confiante qu'un compromis pourra être trouvé non seulement sur les Dreamers, mais aussi sur ces, aujourd'hui on parle plus de 4000 mineurs non accompagnés qui sont entre les mains des services de l'immigration?
Oui, tout à fait. Je pense que l'administration Biden saura trouver les solutions adéquates pour les Dreamers et aussi pour les 4000 enfants non accompagnés. La question des Dreamers avait été très souvent soulevée durant la campagne électorale. Et durant la campagne électorale, certaines promesses ont été faites aux Dreamers. Et je pense que ces promesses seront tenues pour la bonne raison que les démocrates ont la majorité pratiquement dans les deux chambres. Et donc, je pense que ces promesses seront tenues. Je pense que les Dreamers ont moins à craindre de toute façon sous l'administration Biden que sous la précédente administration. Et leurs plaintes ont été entendues. Ce sont des personnes, comme l'a dit Herman Cohen auparavant, qui sont vraiment déjà très intégrées dans la société américaine. Ce sont des personnes qui ont, bon, quand on les écoute parler, ils ont même l'accent américain, ils sont arrivés ici, ils étaient tout petits, ils avaient 2-3 ans, leur culture, c'est une culture américaine. Donc il n'y a pas de raison qu'ils soient refoulés par les États-Unis, qui est en fait leur seule patrie.
Malheureusement, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités, énormément d'ailleurs, et à vous qui nous avez suivis sur notre site internet voafrique.com et à travers nos télépartenaires en Afrique. Je n'oublie pas, bien sûr, l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.